autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, pour nous reposer les questions les plus vertigineuses qui soient sur la vie terrestre et extraterrestre. Sommes-nous seuls dans l'univers? La vie est-elle possible ailleurs que sur Terre? Ou bien est-elle liée à l'histoire même de notre planète, une histoire folle, pleine de rebondissements et de hasards, qui a fait de la Terre une planète unique en son genre, à ce jour en tout cas, parmi des milliards de galaxies, d'exoplanètes et de mondes que nous ne cessons de découvrir dans l'univers? Et si le vivant était terrien par essence? C'est l'hypothèse iconoclaste et révolutionnaire de notre invité, l'astrophysicien Jean-Pierre Bibring, spécialiste internationalement reconnu du système solaire, responsable de plusieurs missions martiennes, mais aussi de missions cométaires, de Philae et Rosetta, dans son nouvel essai percutant, et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, intitulé Seul dans l'univers, de la diversité des mondes à l'unicité de la vie, carrément, autour de la question « La vie est-elle possible ailleurs que sur Terre ?» Bienvenue pour prendre de la hauteur sur cette perspective inouïe avec l'astronaute Jean-François Clairvoy.
Quand vous regardez la Terre depuis l'espace et que le Soleil est dans votre champ de vue, votre pupille est trop refermée pour voir les étoiles. Vous voyez la Terre et vous avez l'impression qu'il n'y a que ça. Il n'y a que nous et il n'y a rien d'autre. Ce noir, on a l'impression de voir l'infini. Alors que sur Terre, quand vous levez les yeux, vous voyez de la matière. Vous voyez du bleu, c'est l'atmosphère qui émet ce bleu, ou du blanc, les nuages. Mais vous voyez quelque chose. Il y a comme une carapace inconsciemment qui vous protège. Il y a un toit. Mais lorsqu'on est au-delà de l'atmosphère, on voit le néant à l'infini noir d'encre, avec rien.
Effrayant.
Et il faut éteindre les lumières dans le cockpit, attendre qu'on soit dans une orientation telle que le Soleil et la Terre soient dans le dos, pour que petit à petit, l'œil s'accommode à l'obscurité, et là, ça devient blanc, coloré. Il y a tellement d'étoiles, et comme elles ne scintillent pas, parce qu'on ne les voit pas à travers l'atmosphère, on perçoit leurs couleurs, elles sont très très nettes, et on se dit, c'est pas possible, on ne peut pas être tout seul. Et on est extrait, on ne fait plus partie du régime Terre. Et momentanément, on se sent un peu un être extraterrestre et qui se pose des questions qu'on ne se pose pas forcément quand on est sur Terre, ou qui pousse plus profondément les réflexions sur certaines questions sur qui nous sommes.
Autant de questions que vous revisitez, Jean-Pierre Bibring, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous autour de votre nouvel essai, stupéfiant, franchement, et inspirant, « Seul dans l'univers », qui vient de sortir aux éditions Odile Jacob. Il est sous-titré « De la diversité des mondes à l'unicité de la vie ». Alors comment l'astrophysicien internationalement reconnu que vous êtes, professeur à l'université Paris-Saclay, spécialiste des systèmes solaires, qui êtes co-responsable de plusieurs missions martiennes et cométaires, c'est vous qui pilotiez Philae, entre autres, l'atterrisseur de la mission Rosetta, on va y revenir. Comment l'éminent astrophysicien que vous êtes, Jean-Pierre Bibring, en est venu, contrairement à la plupart de vos collègues chercheurs en quête de vie extraterrestre, à cette hypothèse que nous sommes peut-être, sauf preuve du contraire, seul dans l'univers?
Alors, je vais vous répondre, bien entendu. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité ici. Je vous remercie d'ailleurs de l'introduction que Jean-François Clairvoy a fait aussi de cette émission. Et c'est vrai que démarrer une émission comme ça, après le bulletin d'information qu'on a entendu, où on voit tous les séismes, les tremblements de nos sociétés sur cette planète, dans tous les coins, finalement, on se demande est-ce que c'est bien le moment de parler de d'autres choses. Il y a tellement d'urgence à bloquer essentiellement ce désastre des guerres. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, la vision que l'astrophysique permet d'offrir de la Terre, et ça s'est construit progressivement et singulièrement depuis quelques décennies grâce à ce qu'on appelle l'exploration spatiale. Non seulement ça change notre manière de concevoir les choses, mais ça permet de prendre à la fois du recul par rapport à ce qui se passe réellement. Et je crois que ça offre aussi quelques perspectives quant à la manière d'affronter les défis qui sont aujourd'hui. Et même si les défis sont... toutes ces guerres ont l'air d'être très locales, il y a des défis globaux qui apparaissent par la résurgence de toutes ces guerres. Mais il y a aussi, on sait bien, il y a eu la pandémie, il y a des choses qui paraissent planétaires. Les enjeux deviennent planétaires. La notion même de planète est en train de beaucoup évolué par l'exploration spatiale et par le spatial d'une manière générale. Il n'y a plus de Terre qui soit étrange ou étrangère. On a l'impression que dès qu'il se passe quelque chose, le monde entier est au courant. On est au courant de ce qui se passe partout. On est même au courant de la manière dont ça se passe. Ça change des choses fondamentales et surtout, ça invite à penser très différemment l'avenir, mais pas l'avenir sur les prochains millénaires, mais l'avenir sur les prochaines décennies, réellement, peut-être même les prochaines années.
Et, donc, et en ce sens-là, l'astrophysique, le recul, enfin, se prendre de la hauteur peut permettre...
Je le pense réellement parce que la difficulté que l'on a, même avec les conflits, quels qu'ils soient, on pourrait les prendre les uns après les autres, mais ce n'est pas le but de cette émission, mais... si on ne les replace pas dans un contexte qui permet de comprendre l'origine de ces choses et surtout vers quoi elles tendent et qu'est-ce qu'elles traduisent, et elles traduisent essentiellement ce que des sociétés ont construit avec énormément d'inégalités qui sont maintenant devenues inacceptables. Et c'est normal que les gens se rebiffent contre. Je ne dis pas qu'ils ont raison de le faire de la manière qu'ils le font, mais on voit bien que ces tremblements-là, ils répondent à des siècles, en fait, de souffrance, d'inégalité fabriquée par les impérialistes. Quand on pense qu'il y avait de l'esclavage il y a deux siècles encore, même moins que cela, et on vendait des gens, c'est ahurissant. Et qui, à l'époque d'ailleurs, se mobilisait contre ? Peu de gens, en fait, y compris dans notre fameux siècle des Lumières. Donc, prendre du recul, ce que l'on fait très souvent en science et surtout en astrophysique, nous aide à contextualiser, c'est-à-dire à mettre effectivement tout ce qui se passe dans une, à la fois dans une perspective passée et future qui peut être très, très bénéfique, je crois.
Alors justement, on va y venir parce que ce savoir peut-être seul dans l'univers implique, on y reviendra, d'immenses responsabilités, mais vous vous dites seul dans l'univers, et alors que la plupart de vos collègues astrophysiciens disent il y a sûrement, on cesse de découvrir des mondes, de la vie quelque part, vous vous dites non, on pose mal la question finalement.
Je pense, oui. Alors d'abord, c'est sûr que le titre qui n'est que ce qu'il est, qui fait appel à la solitude, le problème n'est pas tant un problème de solitude. La solitude fait peur quelque part ou répond à un inconfort très, très grand. Ce n'est pas ça la vraie question, bien sûr. Mais ça répond d'abord à une première chose qui est ce que la science est en train de montrer, que, indépendamment même du vivant, la Terre comme objet... tel qu'il est réellement, dans sa énorme spécificité, pourquoi il y a de l'eau liquide, des océans qui sont stables depuis plus de 4 milliards d'années, pourquoi il y a des nuages tels qu'ils sont et pas autrement, l'atmosphère qui est tellement fine, qui est tellement propice à l'évolution précisément de la biologie, est-ce que ça se trouve ailleurs ou pas? Et la réponse qu'on est en train de réellement d'établir, c'est que non, ce qu'est devenu la Terre... Maintenant qu'on comprend non seulement qu'elle est différente des autres, qui elles-mêmes sont différentes entre elles, c'est-à-dire que toutes les planètes sont différentes, c'est ça le
grand
résultat, oui, c'est ça, de quelques décennies. C'est pas si vieux que ça, hein. Il faut voir que l'exploration spatiale date de quelques dizaines d'années. Les gens de ma génération l'ont vu se construire. Et les idées même que l'on manipule aujourd'hui, c'est des idées qui se construisent avec le temps en ce moment. Donc, je ne pensais pas la même chose que ce que je dis aujourd'hui il y a 5, 10, 15, 20 ans. Donc, c'est des choses qui sont en train de se construire. Et elles aboutissent non seulement à l'idée que la diversité devient vraiment le paradigme dominant, c'est-à-dire qu'on ne peut concevoir à toutes les échelles ce que l'on voit qu'à travers la diversité, et non pas ce qui serait unique, un peu comme quand vous voyez l'humanité terrestre, on est bientôt 10 milliards, 8 ou 10 milliards. Est-ce que l'important, c'est qu'on est tous des humains, ou est-ce que l'important, c'est qu'on est tous différents? Et je pense que mettre l'accent sur la diversité est importante parce que ça permet, et où ça, surtout ça demande, ça requiert de mettre en évidence les mobiles. Qu'est-ce qui fait que cette diversité soit venue? Qu'est-ce qui fait que la Terre soit devenue la Terre, différente de Mars, différente de Vénus? Et qu'est-ce qui fait que notre système solaire soit à ce point différent de tous les systèmes qu'on découvre maintenant? Il y a des milliers de systèmes qu'on découvre. C'est important de savoir qu'il y a des planètes autour des autres étoiles, mais le plus important peut-être n'est pas là. Le plus important, c'est qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Et maintenant, non seulement on découvre et on caractérise cette diversité, mais on caractérise les moteurs. Qu'est-ce qui fait que la Terre est devenue là? Et ça met en question des choses importantes sur ce qu'est l'évolution elle-même. Quels sont les principes qui dirigent l'évolution? Est-ce que l'évolution est d'ordre déterministe? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de causes initiales qui pourraient être les mêmes un peu partout, on va aller vers une même succession d'étapes dont la vie d'ailleurs fait partie? Est-ce que la vie, est, de ce point de vue-là, est quelque chose qui devrait se trouver ailleurs parce qu'il y a une flèche de l'évolution? Alors que je pense que c'est tout le contraire qui est en train de se démontrer, à savoir qu'il n'y a pas de flèche à l'évolution. Que bien sûr, les lois de la physique sont déterministes, il y a de la causalité, Mais il y a tellement d'événements qui interviennent dans l'évolution. Et maintenant qu'on comprend, en particulier pour ce qui est de la Terre, quelles ont été les étapes importantes, on s'aperçoit qu'il y a une succession d'étapes. Et à chaque fois qu'il y avait, disons, une bifurcation possible entre plusieurs évolutions, eh bien, c'est le contexte qui a décidé, est-ce qu'on irait plutôt comme ci ou plutôt comme ça. S'il n'y avait pas eu de soulèvement de l'Afrique orientale il y a quelques millions d'années, on ne serait pas là pour en parler.
Donc c'est sur la diversité, c'est cette diversité-là qui nous force à reposer autrement la question. Et en même temps, c'est cette diversité des mondes. Je propose d'écouter ma collègue, tiens, Mathilde Fontaine, rédactrice en chef du magazine Epsilon, justement sur cette diversité des mondes et ce que vous appelez l'unicité de la vie. On l'écoute, Mathilde.
Finalement, ces 10-20 dernières années, la grande découverte en astronomie, c'est de s'apercevoir de la pluralité des mondes, qu'elle est réelle, qu'il y a bien des planètes autres dans l'espace, autour d'autres étoiles, qu'il y a bien d'autres planètes à la bonne température potentiellement, à la bonne distance de leur étoile en tout cas. Bref, on a cette idée qui a surgi là, qui nous dit qu'il y a plein d'autres planètes, plein d'autres terres partout. Comment est-ce qu'on peut se dire, au moment où on a une réponse comme ça, qu'il n'y a pas de vie? Comment est-ce qu'à ce moment-là précis, avec cette nouvelle réponse apportée, on peut être encore plus sceptique qu'avant?
Votre réponse, Jean-Pierre Bibring.
Alors, je suis content que ces questions soient posées comme cela, parce qu'elles traduisent effectivement ce contre quoi j'essaye d'établir la réalité telle qu'on la voit maintenant. Mais d'abord, c'est vrai, et ça c'est très important, l'idée selon laquelle il y a des planètes autour des étoiles, qui était une idée avancée depuis l'Antiquité, Épicure en parlait, et plein de gens en ont parlé, au XVIIIe et XIXe siècle, énormément de gens ont pensé que dès qu'on forme une étoile dans le ciel, nécessairement il y a des planètes autour qui apparaissent. Ce n'était pas la seule théorie, il y en avait d'autres qui s'opposaient. Tant que c'était une idée qu'on n'avait aucun moyen de vérifier, ni cette idée, ni son contraire, voilà, ça n'avait pas grand intérêt, jusqu'au jour où, effectivement, ça a été validé. Cette idée a été validée par une observation. Elle date, elle n'est pas très vieille, elle date de 1995. Ça fait un peu moins de 30 ans maintenant. Et les personnes à l'origine de cette découverte ont eu le prix Nobel pour ça il y a 3-4 ans. Et c'est merveilleux parce qu'effectivement, on sait, et ça c'est exact, qu'autour de chaque étoile, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des planètes qui tournent autour.
Donc il y a une multiplicité, une multitude de mondes.
Multitude de planètes. Après, il va falloir voir ce qu'on définit comme planète, justement, et ce qu'est la Terre par rapport à ça. Mais la sémantique, quelquefois, est importante. Mais pour moi, le plus important n'est peut-être pas là. Le plus important, ce n'est pas qu'on a validé l'idée qu'il y a des planètes autour des étoiles. C'est que par rapport à l'idée que l'on se faisait de la manière dont se forment les systèmes, comme on dit, c'est-à-dire une étoile et des planètes autour, dont
notre
le système solaire,
la
Terre, Vénus, etc., on s'aperçoit qu'il n'y en a pas deux pareils. C'est-à-dire que la différence que l'on est en train de mettre en évidence dans notre système entre les planètes, entre la Terre, Mars, Vénus, etc., on la retrouve à un autre niveau maintenant, au niveau des systèmes eux-mêmes. C'est-à-dire que le système solaire est aussi unique en tant que système, et on comprend pourquoi. Et il a fallu, on n'a pas le temps ici d'en parler, bien sûr, en détail, j'en parle un peu dans le livre, comprendre qu'est-ce qui fait qu'en particulier, il y a quatre planètes qu'on appelle internes, proches de la Terre, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Pourquoi il y en a quatre? Pourquoi elles sont à ces distances-là? Rien n'était écrit dans le grand livre. C'est une succession de contingences, une succession de paramètres liés à la manière dont notre disque initial était fait, qui a fabriqué cette chose-là. Un petit paramètre aurait été différent. Eh bien, tout aurait été différent, on ne serait pas là pour en parler, et c'est ce qui se trouve partout ailleurs. Donc, à toute échelle que l'on peut maintenant explorer, on s'aperçoit que la diversité est importante.
Alors, c'est donc pour vous plus la singularité que la diversité qui change tout, en fait.
C'est-à-dire qu'à tout moment, les processus, c'est toujours les mêmes, c'est des collisions, des interactions gravitationnelles, tout ça, mais elles prennent des formes différentes à chaque fois. Et c'est la forme qui va imposer l'évolution.
Quelle est justement la forme ou le processus d'évolution qui a conduit la Terre à être ce qu'elle est et donc à abriter le vivant? Je reprends aussi une question de nos auditeurs sur les réseaux sociaux qui posent la question depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. La vie telle que nous la connaissons n'est-elle pas liée à la Terre et à sa position exacte par rapport au Soleil?
Alors, demande-t-il. La position joue. Et d'ailleurs, dans l'intervention de la personne tout à l'heure, la question, la bonne distance, etc. Il y a beaucoup de planètes et donc il devrait y avoir d'autres Terres. Cette notion de bonne distance fait appel à une idée qui a dominé pendant des millénaires, qui est que ce qui fait l'évolution, par exemple de la Terre, c'est sa taille elle-même et sa distance au Soleil. Et que c'était le Soleil qui générait essentiellement l'évolution à travers cela. Et de ce point de vue-là, on se dit, si on veut chercher une planète qui a effectivement la même dimension, la même distance à son étoile, bien sûr qu'il y en a beaucoup dans l'univers. Mmh, il n'y a pas de difficulté à en trouver, presque, on pourrait dire. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on sait que ces paramètres-là ne sont pas suffisants pour expliquer que la Terre est devenue ce qu'est réellement la Terre. C'est par la compréhension fine, maintenant, de ce qu'est la Terre. Par exemple, pourquoi cette couverture en nuages, qui est à peu près moitié-moitié, quand vous regardez une image de la Terre vue du ciel, c'est à peu près moitié-moitié, c'est stable au cours du temps. C'est la seule planète comme ça. Les autres, comme Vénus, c'est 100% de couverture. La plupart des autres, ce n'est pas du tout de nuages. Qu'est-ce qui fait que nous, c'est à peu près du moitié-moitié, qui est stable au cours du temps? On a l'impression qu'un jour, il fait beau, que demain, il pleut. Pas toujours et pas partout. Mais il faut bien voir que cette couverture, globalement, reste constante. Pourquoi est-ce que les océans sont stables sur Terre? On a pensé pendant très longtemps que de l'eau, il devrait y en avoir partout, parce que l'eau, il suffit que la température soit supérieure à 0 degré, l'eau est stable à état liquide. Et on n'en a trouvé nulle part. Maintenant seulement, on comprend comment l'eau est arrivée sur Terre et pourquoi, effectivement, les conditions atmosphériques ont permis à l'eau de rester à l'état liquide. Nulle part ailleurs, ça se trouve dans le système solaire.
C'est ça qui est extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc, ce que vous dites, si on pousse un peu plus loin, le vivant est terrien, vous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage, le vivant serait terrien. Par essence, en fait.
Voilà. Alors, déjà la Terre, avant même peut-être de dire pour le vivant lui-même, la Terre, par exemple, on dit c'est à la bonne distance pour que l'eau soit stable à l'état liquide. Donc, on revient à cette idée que c'est le Soleil qui... Non, la température moyenne à la surface de la Terre, ce n'est pas la distance au Soleil qui la gère. Et c'est bien sûr, c'est un facteur. Mais ce qu'il fait, c'est la composition de l'atmosphère. On sait bien tous maintenant que les gaz à effet de serre sont importants. La preuve, c'est qu'on les modifie et que c'est ça qui crée les canicules et les catastrophes qui sont d'ailleurs... à portée de main, qui sont déjà prédites et hélas sûres. Non, c'est la composition de notre atmosphère. S'il n'y avait pas de la vapeur d'eau et du gaz carbonique dans notre atmosphère, la température à la surface de la Terre serait de 33 degrés inférieure à ce qu'elle est. L'eau serait gelée. Il n'y aurait jamais eu de vie sur Terre. Donc, il ne suffit pas d'être à la bonne distance. Il faut en plus avoir un processus qui va fabriquer une atmosphère qui est capable, dans le cas de la Terre, de retenir l'eau à l'état liquide. Et bien, maintenant qu'on commence à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a cette atmosphère-là, ce n'est pas du tout lié au Soleil. Il pourrait y avoir ou pas le Soleil, ça ne changerait rien à cela. C'est essentiellement la radioactivité de certaines espèces dans le manteau et dans la croûte de la Terre.
C'est donc vraiment des conditions extrêmement spécifiques liées à notre Terre, à notre planète, à ce sujet. Ben, je vous propose un nouvel éclairage, c'est celui d'un autre planétologue, lui aussi professeur à Orsay, Sylvain Boulet, bien connu de nos auditeurs pour son éphéméride du ciel d'Afrique, éphéméride mensuelle. On écoute Sylvain Boulet autour de la question « Sommes-nous seuls dans l'univers? Une vie est-elle possible ailleurs que sur Terre ?»
On peut vraiment se poser la question, c'est-à-dire que trouver de la vie avec des petites bactéries, de la vie vraiment débutante, on peut peut-être en trouver ailleurs, et c'est ce qu'on essaye de faire notamment dans le système solaire. Mais finalement, aujourd'hui, quand on regarde l'Homo sapiens sapiens, c'est le résultat d'une évolution qui est incroyable, avec un nombre de bouleversements, de choses qui se sont passées, la présence de la Lune à côté, Chicxulub qui a fait apparaître les mammifères. Bref, on est une succession de coïncidences. Et finalement, est-ce qu'il faudrait beaucoup de coïncidences pour faire une vie aussi intelligente, même si on peut avoir des doutes encore sur l'homme, mais quand même.
Qu'est-ce qui est donc si particulier à la Terre, Jean-Pierre Bibring? Vous avez parlé de son atmosphère, Sylvain Boulet parle de la Lune, parle de ces météorites, astéroïdes qui sont tombés sur la Terre et qui ont fait la destruction des dinosaures. Qu'est-ce qu'il y a de si extravagant dans tous les hasards, dans tous ces événements qui se sont succédés sur notre Terre, pour avoir permis la vie?
Alors, je ne vais pas mettre de hiérarchie dans les hasards successifs, parce que chaque événement a été important dans l'évolution de la Terre. Alors, il y en a qu'on a tout de suite mis en évidence. Par exemple, on sait maintenant, avec une bonne raison de penser que c'est vrai, que la Lune procède d'un impact que la Terre a eu très tôt dans son histoire. Quelques millions d'années après s'être formée, c'est-à-dire très tôt, puisqu'elle a 4,5 milliards d'années, elle a reçu l'impact par un objet de très grande dimension, plus grand que Mars aujourd'hui, hein, donc c'est un gros objet. Et que c'est vrai que le résultat de cette collision a créé des effets énormes. L'un des effets, ça a été de fabriquer un disque de poussière autour de la Terre. Et dans ce disque de poussière, la Lune s'est réaccrétée. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est qu'en fonction de la géométrie de l'impact, de la taille de l'impacteur, qui s'appelle Théia dans la mythologie, on s'aperçoit qu'on aurait pu avoir des objets très différents de fabriquer. Et les lunes auraient pu être très différentes. D'ailleurs, dans le système solaire, Mars, par exemple, a deux lunes, mais elles sont toutes petites, la plus grande à 25 km. Et donc, le système Terre-Lune est très particulier par la taille relative de la Lune par rapport à la Terre. Eh bien, ça, on sait maintenant, et ça a été proposé par un astronome français, Jacques Lascar, ça fait bientôt 30 ans. Il a montré que, on sait bien que la Terre tourne autour d'un axe en 24 heures et que cet axe est incliné de 23 degrés, qui est la latitude des tropiques. On a toutes les raisons de penser que cet axe n'a aucune raison, a priori, d'être stable. Tout bouge dans l'espace. Et d'ailleurs, quand on regarde les autres planètes, elles tournent toutes autour d'un axe, mais cet axe lui-même tourne. Sur Terre, cet axe tourne comme une toupie, mais l'angle de 23 degrés reste constant, à mieux de 1 degré près. C'est ça qui fait que nos climats, même s'il y a des petites variations, elles sont toutes petites, mais pour l'essentiel, le climat est stable. Eh bien, ça, on le doit à cette lune particulière qui procède d'un impact très particulier. Il aurait suffi que l'impact ait une géométrie un peu différente, plus rasant ou moins rasant, plus frontal. C'était plus frontal, la Terre aurait même probablement disparu. Plus rasant, il n'y aurait jamais eu de lune fabriquée. Et on ne serait pas là parce que le climat n'aurait jamais permis une stabilité.
Ce qui est fou hein, dans ce que vous dites et dans ce que vous expliquez, dans cette... c'est qu'en fait, le vivant, la Terre, enfin nous tous, tous les vivants sur Terre, sommes le fruit d'une suite de hasards insensés, au fond, de bifurcations, d'événements fortuits. C'est complètement fou, aussi. Alors, c'est aussi fou d'être seul dans l'univers que de ne pas y être, d'ailleurs. Hein,
je trouve. Alors, bien sûr, l'essentiel de ce que vous dites se retrouve dans le mot de hasard. Et quand vous dites c'est fou, on ne va pas parler de miracle, mais presque.
oui, c'est ça, il ne faut pas tomber là-dedans.
C'est pas qu'il ne faille pas, mais c'est vrai que ce sont des événements qui n'étaient pas prédictibles. Et qu'on ne pouvait pas prédire, on ne pouvait pas prédire que la Terre, personne d'abord, s'il y avait personne à l'époque, mais quand bien même il y en aurait, on ne pouvait pas prédire qu'un objet de cette taille-là arriverait dans cet endroit-là. Et s'il était arrivé un petit peu ailleurs, un petit peu avant, un petit peu après, ça aurait été différent. Dire que ce n'est pas prédictible, ça ne veut pas dire que c'est du hasard de ce point de vue-là. C'est la définition de ce hasard-là. Mais bien sûr, la trajectoire de cet objet-là, elle répondait à des lois de la physique qui sont parfaitement déterministes. Mais comme on ne connaît pas ni son point de départ, ni sa trajectoire, ni les autres interactions qu'il a pu avoir, on se dit, vu de la Terre, c'est quelque chose qui était hasardeux. Bon. Eh bien, c'est vrai que la multiplicité des événements qui ont jalonné, balisé l'histoire de la Terre, ils sont du même ordre. Et dans un ordre bien déterminé. Si vous intervertissez deux événements
ça
comme ça...
Ça marche plus, ça fonctionne plus.
Vous allez avoir autre chose. Et à nouveau, c'est pas que la Terre... Il n'y a pas de hiérarchie dans le point final. Il n'y a pas de flèche, encore une fois. Il n'y a pas une direction qui va aboutir quelque part. Mais il n'y a pas de valeur ajoutée au fait que... Eh bien, de mon point de vue, maintenant, si on arrive au vivant lui-même, on s'aperçoit que d'abord qu'on a la même difficulté avec le vivant que pour la Terre. Je fais une petite parenthèse là-dessus pour expliquer cette phrase. Tout à l'heure, on disait que s'il s'agissait de trouver une Terre définie uniquement par sa taille et la distance à l'étoile, on en trouverait. Mais ça ne suffit pas à expliquer ce que la Terre est devenue. Et que si plus on comprend ce qu'est la Terre, plus le mot de Terre lui-même change, et plus cette Terre-là, c'est-à-dire cette Terre avec cette couverture en nuages dans l'océan, l'atmosphère, cette Terre-là, on ne pourra pas la trouver ailleurs parce qu'elle, elle rend compte de hasard, comme vous dites, tellement nombreux qu'on ne pourrait pas, il n'y a pas assez de candidats, parce que l'univers n'est pas infini. Si l'univers était infini, ce qui était ce que Épicure pensait, ce que Giordano Bruno pensait, bien sûr, il y aurait d'autres mondes. Voilà. Mais il n'y en a pas parce qu'il n'y en a pas. Des milliards de milliards dans le langage courant, c'est l'infini, mais uniquement dans le langage courant. C'est ce que je disais à propos des hommes tout à l'heure. On est bientôt des milliards, on est tous différents parce que le nombre de combinaisons de 24 chromosomes en eux est incommensurablement plus grand. Donc, pour en venir au vivant, c'est exactement ça le problème. Qu'est-ce qui définit le vivant? Et la vraie question est là, en fait.
On va y venir à cette vraie question autour de cette nouvelle question. Qu'est-ce qui définit le vivant? Le vivant est-il terrien par essence? Immense question sur lesquelles on continue de s'interroger avec vous, Jean-Pierre Bibring, autour de votre ouvrage « Seul dans l'univers » dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, « Seul dans l'univers » à l'écoute de Gorillaz sur RFI « All Alone ».
All Alone.
All alone.
be Picasso, Deuteronomy. Snatch beats of my pondering. This didn't fire like yondering. Skin of my tooth like, skin of my boot like, flying my suit like, where's the waitress? Can't take this, really can't fish this. These years and all these graces. It's my mistake, I make it. Shade up to the moon, now make it. Bounce, wiggle, shaking all them pains out. Chemical cutthroats, bound to blow the brain out. Hurt to the pain, this ain't no game. I show no shame, my birth is pain. I'll twist the cane, I'll twist the cane. I'll push the blame, plain as day. Known to what these sayers say, known to what these doers do. It's you and who and you know where. We's about to take it there, we's about to make it clear. We happy on, we lonesome. The lone drum, the beat heart, the start, the finish. 10 spoons of spinach, the soul and the spillage. The cup that runneth over, we turn up the ogre.
Alone avec Gorillaz sur RFI en écho à l'essai stupéfiant de notre invité, l'astrophysicien Jean-Pierre Bibring, seul dans l'univers, sous-titré De la diversité des mondes à l'unicité de la vie, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook. Autour de la question, y a-t-il une vie ailleurs que sur Terre, dans l'univers ? Jean-Pierre Bibring, vous nous invitez en fait à reformuler notre quête même de la vie, d'une vie extraterrestre, en nous reposant la question, vous l'avez dit vous-même, la question à la fois la plus simple, mais aussi la plus complexe qui soit, surtout aujourd'hui, qu'est-ce que le vivant ? Là-dessus, les frontières ne cessent de reculer, comme nous l'expliquait ici même la microbiologiste Aude Bernheim, lauréate du prix Jeune chercheur du Collège de France.
Qu'est-ce que c'est que le vivant ? Une des grandes controverses dans mon domaine, c'est est-ce qu'un virus est-il vivant ? Au final, on a tendance à imaginer un virus qui est capable de se répliquer dans une bactérie et d'aller ailleurs. On dirait que c'est vivant, mais c'est pas capable de vivre seul, sans une autre cellule, donc ça l'est pas vraiment. Du coup, la question de qu'est-ce que le vivant n'est pas du tout triviale. D'une certaine façon, poser la question de est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, c'est aussi poser la question de c'est quoi la vie ?
Alors c'est quoi la vie, Jean-Pierre Bibring ? Est-ce que c'est une vie terrestre, carbonée ? C'est quoi la vie ? Grande question.
Alors oui, c'est intéressant ce qui vient d'être dit, parce que, si vous voulez... Dans l'Antiquité, il y avait des mots pour dire le vivant. Les Grecs ont un mot pour dire la vie. Et donc, on parlait de la vie à l'époque parce que, d'évidence, il y avait une différence entre une pierre et un arbre. Et on se disait, ça, on va la baptiser de vivant et le reste, on va le baptiser d'inerte. Mais bien sûr, il n'y avait pas d'idée à l'époque de ce qu'est la biologie, des gènes, des chromosomes, etc. Donc, le vivant a été défini comme cela, un peu comme les planètes avaient été définies par des objets qui bougent dans l'espace par rapport aux étoiles sans qu'on sache réellement ce que c'est. Et ensuite, on a essayé de meubler progressivement ce terme avec des connaissances. Et il faut voir que quand Darwin, c'est pas si vieux que ça, malgré tout, il sort cette idée absolument prodigieuse en 1859, disant qu'effectivement, l'évolution des espèces est un cheminement très particulier qui est entièrement lié à l'adaptation par le contexte, etc., ce que j'espère que tous vos éditeurs connaissent bien, il n'avait aucune idée de ce qui était à l'origine de ça. La biologie est née un siècle après, les gènes, l'ADN, tout ça a été connu bien après. Et malgré tout, il a fait une des découvertes essentielles. Et récemment maintenant, depuis que l'on a mis en évidence des processus moléculaires qui sont dans le vivant, la biologie essaye de meubler ce concept ancestral des connaissances actuelles. Et c'est ça qui pose problème, parce qu'on s'aperçoit tout d'un coup que les raisons qui avaient poussé les ancêtres à faire une différence entre le vivant et le non-vivant, quand on essaye de caractériser le vivant par une propriété particulière, eh bien, il y a à peu près autant de réponses que de biologistes. Et quand on les met ensemble, ils ne sont pas d'accord.
Donc, il y a pas, aujourd'hui, il n'y a plus une définition du
vivant. C'est exactement la difficulté. On ne peut pas, il n'y a pas de définition qui soit acceptée par tout le monde.
Donc, quand on en cherche ailleurs, on ne sait même pas ce qu'on cherche.
Il y a un petit peu de ça. C'est exactement ça le problème. Alors, on peut essayer de caractériser pour le vivant terrestre ce qui fait réellement quelque chose que l'on pense être différent de la matière inerte. Mais honnêtement, quand on fait cet exercice, que j'essaie de faire pour cet ouvrage en discutant avec énormément de biologistes, on s'aperçoit que l'essentiel des définitions qui sont données ne correspondent pas réellement à la réalité. Parce que beaucoup de choses qui sont proposées, on le trouve dans de la matière inerte, dans des nuages qui se fragmentent, qui donnent naissance à des étoiles. On retrouve de la réplication, on retrouve tout un tas de propriétés. Quand on dit que c'est auto-catalytique, par exemple, c'est-à-dire que ça va tout seul. D'abord, ce n'est pas auto. La vie, par définition, elle ne fait pas toute seule parce qu'on sait bien que si on coupe les relations avec l'extérieur, c'est la mort qui survient. Donc, on s'aperçoit qu'une grande partie de ce qui a été mis pour caractériser le vivant ne correspond pas réellement à la réalité.
Et puis le vivant, c'est pas... D'abord, vous dites que la question de l'origine du vivant, peut-être que c'est même pas une bonne question à se poser. Et puis le vivant ne commence pas et ne s'arrête pas d'un seul coup.
Non, mais voilà, c'est que... On s'aperçoit que si on essaie de caractériser ce que l'on pense être commun aux espèces vivantes sur Terre, moi, je n'ai trouvé qu'une seule chose, en fait, qui est vraiment... Ce n'est pas dans l'idée de la réplication. C'est quelque chose qui est beaucoup plus spécifique. C'est vraiment l'hérédité des fonctions. C'est-à-dire que si vous avez, des fonctionnalités, des organes qui ont les yeux bleus, le nez comme ci, etc., qui effectivement, de génération en génération, peuvent se reproduire en partie.
Dans le vivant.
Chez le vivant. Et ça, on ne le retrouve pas effectivement dans le monde non vivant. Et quand on réfléchit à ce qu'il faut pour que ça se passe comme ça, je ne vais pas utiliser des mots trop complexes, mais tout ce qui est les protéines, les ribosomes, etc. La chaîne de réaction qui elle-même est supposée acquise pour fabriquer cela est tellement complexe que cette fonctionnalité-là, si je puis dire, on ne peut pas la retrouver ailleurs. C'est exactement ce que je disais comme pour la Terre tout à l'heure. Si on cherche une Terre uniquement définie par sa distance à l'étoile, il y en a. Mais si on essaie de caractériser la Terre bien plus précisément par... ce qu'elle est maintenant, telle qu'on la voit, entre autres parce qu'elle abrite la vie, eh bien, on s'aperçoit que si on fait la même démarche pour le vivant, ce qu'il a fallu accumuler de réactions très particulières, entièrement liées au contexte, qui lui-même avait pu changer, à nouveau, s'il n'y avait pas
c'est une suite d'événements, c'est une suite de...
Bien sûr, et s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas eu le résultat que l'on a là. Eh bien,
donc le vivant aussi, sur Terre, est éminemment singulier.
Absolument, c'est ce que je pense. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ailleurs que sur Terre une évolution possible de la chimie du carbone, puisqu'il s'agit de cela. Et non seulement ce n'est pas impossible, mais on sait qu'il y en a. Le carbone est un élément qui adore, qui est très foisonnant au niveau des réactions. Donc il y a partout dans l'univers des réactions et le carbone va fabriquer des structures. Mais de mon point de vue, il n'y a aucune raison de baptiser ça de vivant parce que ce qui caractérise réellement le vivant, on ne va pas le trouver avec cette chimie-là.
Alors, et cette chimie que vous recherchez partout, puisque vous avez travaillé sur plusieurs comètes, sur plusieurs objets célestes, notamment dans la mission Rosetta, maintenant avec les Japonais sur d'autres astéroïdes. Vous trouvez ces éléments-là, mais pas la chaîne qui a permis le processus qui a permis
le vivant. C'est exactement ça qu'on essaie de reconstituer. Si vous voulez, vous avez dit tout à l'heure cette chose qui est tout à fait essentielle, je crois, c'est à propos de la notion d'origine. On adore parler des origines. On sait bien que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on parlait de l'origine de l'homme, parce que d'abord, dans les monothéismes, il y a une origine à l'homme, qu'on appelle le créationnisme, où on le crée. Donc là, bon. Mais on sait bien en même temps que, et ça c'est Darwin le premier qui l'a vraiment théorisé, s'il n'y avait pas eu, à un moment donné, un contexte qui a favorisé le fait que dans l'évolution des hominidés, les bipèdes trouvent leur raison d'être, eh ben on ne serait pas là pour en parler. Mm-hmm. Et donc, c'est une succession de contingences, comme ça, liées au contexte, qui ont fabriqué ça. Donc, il n'y a pas eu un jour où il y avait l'homme et que la veille, il n'y avait pas l'homme.
C'est ça.
C'est un continuum. Ouais,
c'est un processus, un continuum. Voilà.
Eh bien, pour le vivant, il n'y a pas d'origine. Et c'est ça la grande difficulté. En fait, c'est ça qui m'a amené à réfléchir plus, peut-être que je le faisais avant, sur cette notion de qu'est le vivant. C'est que si vous voulez définir le vivant par une propriété ou un ensemble de propriétés qui permettrait de dire cette propriété-là, elle a pris cette forme-là ici, mais ailleurs, on peut l'imaginer qu'elle va prendre d'autres formes. Donc, il y aurait d'autres formes de vie ailleurs. Effectivement, c'est un raisonnement qui a sa logique. Mais ça suppose qu'on définisse des propriétés. Or, Non seulement, comme je l'ai dit, c'est très difficile d'identifier une propriété qui permettrait de dire que, ça, évidemment, ça, on peut le fabriquer ailleurs. Mm-hmm. Parce que la seule propriété qu'on peut définir, elle est impossible de concevoir. On ne peut pas la concevoir ailleurs. Mais c'est pire que ça. C'est que pour arriver à faire naître, émerger une propriété à partir d'un monde qui ne l'aurait pas, c'est-à-dire de la reproduction contagieuse immédiate, ce qu'on appelle la génération spontanée, au XIXe siècle, Pasteur s'est battu longtemps pour arriver à montrer qu'il n'y a pas de génération spontanée. On ne peut pas faire émerger une propriété qu'on appellerait le vivant à partir de non-vivants. Le créationnisme, bien sûr, y répond très bien. Mais dès qu'on essaye de voir comment on peut progressivement faire naître cette séquence d'évolution qui a donné naissance à ce que nous sommes, on s'aperçoit que il n'y a pas une origine. Il n'y a pas exactement comme pour l'homme. Il n'y a pas un jour, il y avait l'homme. La veille, il n'y avait pas. Il n'y a pas un jour, il y avait le vivant parce que tout d'un coup, on avait ça et que la veille, il n'y avait pas. C'est un continuum qui a pris naissance avant même que la Terre ne se forme. Avant même que la Terre ne se forme, il y avait de la matière organique dans le nuage qui a donné naissance à la toile, à notre étoile, le Soleil et aux planètes. Mais c'est ça que l'on a vu entre autres avec la mission Rosetta et avec Philae. C'est qu'un noyau cométaire, pour l'essentiel, c'est de la matière carbonée. Et les gens, immédiatement, ont dit, parce que c'est un réflexe que l'on a dans nos sociétés, d'unification, on veut que partout, ça soit pareil.
C'est ça. Donc, c'est de la vie.
Donc, oui, et surtout, partout dans l'espace, on voit ça, donc partout, il y a la même chose. Eh bien, non. La matière carbonée qu'il y a dans les noyaux de comètes n'a aucune raison d'être la même. Il y a bien sûr des choses en commun, il y a des atomes d'oxygène, d'azote, etc. Mais il y a des groupements fonctionnels, avec un petit peu d'azote, avec un peu de phosphore, avec un peu de ceci, qui ont pris place parce que ces réactions étaient possibles dans un environnement particulier qui était le nuage protosolaire. Le moment où le soleil s'est allumé au centre a modifié certaines de ces choses. Il se serait allumé un peu après, un peu avant, on aurait d'autres groupements. Et ce sont ces grains-là qui ensuite sont tombés dans les océans terrestres. Mais l'océan terrestre, ce n'est pas que de l'eau, parce que si c'était que de l'eau,
on ne serait pas là.
Bah non,
pas
si vous mettez un poisson dans un aquarium où il n'y a que de l'eau, il meurt vite. Ce n'est pas l'eau qui est habitable. C'est pour ça que cette idée sur laquelle, dès qu'on a de l'eau, on a de la vie, est une idée qui n'est pas juste. Il faut peut-être de l'eau, ça facilite les choses. Il faut un liquide pour propager les choses. Mais il faut d'abord que ça ne se dilue pas trop, il faut des membranes. Mais il faut surtout que dans cette eau, il y ait des catalyseurs de réaction, il y ait des enzymes, il faut qu'il y ait des cations particuliers. Il faut donc qu'il y ait une évolution qui a produit à un moment donné un certain environnement. Si vous avez autre chose, sur un autre environnement, vous aurez d'autres réactions.
Mais il n'y aura peut-être pas le vivant tel qu'on connaît.
Voilà, il n'y aura pas le vivant terrestre.
D'où votre hypothèse iconoclaste, on l'a dit, et qui nous entraîne bien loin. Le vivant serait-il terrien par essence ? Je vous propose d'écouter à ce sujet et autour de ce que vous avancez, seul dans l'univers. Et alors, la réaction et l'éclairage d'un physicien des particules, cette fois-ci Yves Sirois, du laboratoire Le Prince Ringuet d'École Polytechnique. C'est l'un des découvreurs du fameux boson de Higgs, la particule la plus élémentaire de l'univers. Voilà ce qu'il pense de votre hypothèse seul dans l'univers et alors.
Ce qui est certain, c'est qu'une fois que la vie est apparue, elle a tendance à se maintenir par toutes les voies possibles. Et c'est sans cesse que l'on redécouvre dans les endroits les plus improbables et les plus reculés de notre planète. Maintenant, est-ce que la vie apparaît de façon aussi simple? On a commencé par découvrir des exoplanètes, il y en avait partout. On s'aperçoit qu'il y en a très peu qui ressemblent à la nôtre. La Terre, c'est un accident extraordinaire. Les planètes sont telluriques et complètement désertées parce qu'elles sont trop proches du Soleil ou froides et glacées. Et on se trouve juste pile poil à peu près entre les deux avec des accidents historiques qui font qu'on a conservé l'oxygène, l'eau, l'hydrogène, etc. On est peut-être effectivement le fruit d'un accident absolument extraordinaire ou non, franchement, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a aucun signal d'aucune sorte qui nous indique qu'il y a de la vie, en tout cas accessible dans l'univers fini auquel on peut accéder. Donc, il n'est pas déraisonnable de se faire à l'idée qu'on est seul dans l'univers, d'où l'extraordinaire importance de préserver l'espèce humaine qui est capable de penser cet univers.
Et oui, comme vient de le dire Yves Sirois, Jean-Pierre Bibring, ça nous donne au fond une sacrée responsabilité à nous terriens, cette préciosité, si la vie est unique, en tout cas cette forme de vie-là existe uniquement sur Terre, quelle responsabilité, qu'est-ce que c'est précieux ?
Absolument. Alors, ça dit plusieurs choses. D'abord, ça dit qu'on ne pourra pas l'exporter ailleurs. Les idées qu'on entend dire actuellement, qui reviennent à ce qu'on appelle voilà,
Mars,
qu'on pourrait aller sur Mars pour que, etc. Mais ça, quelque part, depuis que Darwin a montré que tout est adapté à l'environnement, on sait que Mars ne correspond pas du tout à l'environnement de la Terre. Il a fallu 4,5 milliards d'années pour que la Terre devienne ce qu'elle est. Mars a eu une toute autre histoire. On peut envoyer des gens sur Mars, mais ils vivront dans des bidons d'air terrestre, de nourriture terrestre, comme dans un avion ou dans une station orbitale. Donc non, il n'y a pas de terraformation, il faut faire avec l'univers tel qu'il est, et l'univers tel qu'il est, c'est que le vivant, il est sur Terre, adapté à la Terre. Il n'y a pas de planète B, et il n'y aura pas de... Non, ça c'est la première chose, bien sûr. Notre responsabilité, elle est non seulement parce qu'on ne pourra pas aller ailleurs, mais elle est parce que c'est vrai que l'homme, par son... l'activité actuellement est en train de modifier les conditions de l'atmosphère, donc de son propre environnement, au point de mettre en cause sa propre évolution. C'est pas la vie qui a, comme c'était dit dans la vie, elle a une capacité à s'adapter,
elle s'adaptera à tous les environnements.
Il y aura toujours des formes vivantes. Il y a eu des extinctions et on en est ressorti. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes non pas les victimes, mais les bénéficiaires d'une extinction importante,
celle des dinosaures.
Bon. Et on peut l'expliquer. Voilà. Donc, effectivement, l'homme est extraordinairement fragile d'un certain nombre de points de vue, y compris du point de vue moléculaire, je dirais. Et donc, c'est vrai que les modifications qu'il fait à son environnement sont trop rapides pour être forcément adaptables. C'est cette question de rapidité qui est la plus importante. Ça va trop vite. Il y a déjà eu des variations de température de 4 ou 5 degrés, ce qu'on appelle les périodes de grande glaciation. Le Sahara était ouvert il y a moins de 15 000 ans. Mais ces adaptations se font sur des milliers d'années et on peut envisager que des espèces peuvent migrer un moment, etc. Il y a le temps de le faire. Là, on n'est plus à l'échelle de millénaires, ni même de siècles, mais de décennies. Et on n'a pas le temps de mettre en place les systèmes de régulation.
Je vous propose d'écouter ce qu'en dit à ce sujet le musicien, le saltimbanque HK. Petite terre sur RFI, on reprend tout de suite après avec vous, Jean-Pierre Bibrine.
Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Petite terre, tu as grandi dans ce gigantesque univers, à l'endroit précis où le gris se colore de bleu et de vert. Que fais-tu là, c'est incroyable. Petite fleur en plein désert, et nous voilà dans cette fable, enfants de la terre nourricière. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres.
Petite terre, HK sur RFI, c'est aussi un des formidables enseignements de votre ouvrage, de votre essai « Seul dans l'univers », Jean-Pierre Bibring, autour de la question « Le vivant est-il essentiellement terrestre ?» Mais tout de même, les astrophysiciens que vous êtes continuent cette quête de chercher d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Alors pourquoi et comment ? Je propose d'écouter la question que vous pose Brigitte Zanda, la grande spécialiste, conservatrice et valorisatrice des météorites au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. On l'écoute.
Bonjour Jean-Pierre. Alors, je sais que tu considères qu'on est peut-être seul dans l'univers, mais pourrons-nous en être jamais tout à fait certains ? Et en particulier, quelles sont les expériences qu'on pourrait imaginer, les observations qu'on pourrait imaginer pour trouver des formes de vie qu'on ne connaît pas, en fait, qui ne nous sont pas accessibles ? Est-ce qu'on est sûr qu'on saurait les identifier s'il en existe ?
Ah, quelle réponse ! Jean-Pierre Bibring à cette question vertigineuse de Brigitte Zanda.
Alors, si Brigitte écoute, je la salue aussi. Voilà, tout est dans ce que j'essaie de dire tout à l'heure, dans cette notion de forme de vie. Tout part du principe que la vie répond à des choses qui pourraient se trouver sous d'autres formes ailleurs. Je pense que ça procède d'une mauvaise définition de ce qu'on appelle le vivant. La chimie du carbone, on en trouvera des espèces capables de se reproduire telles que nous nous reproduisons avec cette hérédité des fonctions. Ça suppose des constructions moléculaires beaucoup trop complexes pour se reproduire à l'extérieur, simplement parce qu'il n'y a pas assez de cas favorables. Alors, ce que l'on recherche, ce n'est pas s'il y a d'autres formes de vie. Ce qu'on recherche, c'est justement quelles sont les particularités de l'évolution propre à notre système de la chimie du carbone qui a conduit à la présence de vie sur Terre aujourd'hui.
Pour essayer de retrouver peut-être ailleurs sur ce processus.
Pour voir effectivement dans quelle mesure certaines spécificités ont été fondamentales, dans ce qu'on appelle par exemple la chiralité et d'autres choses comme ça, quelques groupements fonctionnels à base d'azote, de phosphore. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont pris cette forme-là et mis dans une eau très particulière? Est-ce qu'il fallait qu'il y ait des continents de telle composition? S'il n'y avait pas assez de calcium, est-ce que ça aurait donné autre chose, etc. Pour essayer de reconstituer cette chaîne complexe qui arrive jusqu'à nous et s'apercevoir qu'effectivement, à un moment donné, si vous faites une inversion, ça ne marchera pas. Et ce qu'on fait en essayant d'aller chercher de la matière qui vient d'objets antérieurs même à la formation de la Terre éventuellement, comme les noyaux cométaires, comme les astéroïdes carbonés maintenant, c'est justement pour essayer de récupérer cette matière carbonée pour comprendre en quoi elle est spécifique, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et de différent dedans.
C'est ce que vous essayez de récupérer avec la mission Hayabusa japonaise sur sur un astéroïde, ce que vous aviez fait avec Philae et Rosetta.
Absolument. Sauf qu'avec Philae, on n'a pas pu faire de retour d'échantillons, ce n'était pas prévu. Et maintenant, on fait des retours d'échantillons pour profiter des techniques de laboratoire que l'on a, qui sont plus puissantes, bien sûr, que ce qu'on envoie dans l'espace. Eh bien, en reconstituant ça, on espère essayer de comprendre quel était l'environnement, l'eau, la qualité de l'eau terrestre de l'époque. Et pourquoi on va sur Mars? Parce qu'on sait que sur Mars, les mêmes grains sont tombés. Et ils sont tombés aussi, à un moment donné, dans des endroits où il y avait de l'eau, peut-être pas très longtemps, mais suffisamment éventuellement, pour arriver à fabriquer aussi une évolution de cette matière carbonée. Mais qui sera certainement différente, parce qu'il n'y avait pas les mêmes ingrédients.
Donc et si la comparaison, jamais on trouvait de la vie, ce serait une vie, des vies
mais ça sera
complètement différentes.
Oui, sauf que ça ne sera pas de la vie, ça sera des macromolécules organique, très particulière, mais on comprendra pourquoi celle-là
n'a pas marché
à autre chose.
Et pourquoi ça a marché. Enfin, pour le dire très, très grossièrement, juste pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, Jean-Pierre Abibrine, qu'est-ce que ça fait, alors, astrophysiquement, je comprends bien, et dans vos recherches et dans ce que vous cherchez maintenant de comprendre, mais humainement, philosophiquement, il y a des implications extraordinaires. Comment vous le vivez, ça? Est-ce que du coup, de vous poser la question, au fond, on est peut-être seul dans l'univers et probablement... qu'est-ce que ça vous fait, à vous, Jean-Pierre?
Je pense que ce que ça me fait, c'est, comme chercheur, on est très content de montrer que lorsqu'on se pose une question, qu'on fait une expérience, on s'aperçoit que la question était mal posée et on a d'autres questions qui se posent. Donc, on voit qu'on modifie énormément ce qu'on croyait être des certitudes. Mais je retire surtout de tout... Il y a quelque chose de très unique dans l'astrophysique spatiale que je fais, c'est qu'on travaille réellement en coopération, international, indépendamment des systèmes politiques en place. Et je crois que ce que l'on est en train de montrer, c'est que c'est cette exploration qui a changé le regard que l'on a sur ce qu'est la Terre. Eh bien, c'est elle qui nous guide actuellement pour dire, par rapport aux enjeux qui sont planétaires, comme on le disait au début de l'émission, la manière d'y faire face, c'est de prendre exemple sur la manière que l'on a de travailler ensemble à affronter les défis qui sont là, où chacun contribuera avec ce qu'il peut faire, non pas de changer simplement technique pour technique, mais technique contre patrimoine, contre culture. C'est ensemble qu'on y arrivera, et ça ne sera certainement pas par la force.
Merci infiniment, on vous écouterait, enfin on n'arrêterait pas de vous écouter, Jean-Pierre Abibrine. Je rappelle le titre de votre dernier essai, bouleversant, inspirant, « Seul dans l'univers, de la diversité des mondes à l'unicité de la vie », aux éditions Andy Jacob, dont nous avons quelques exemplaires à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, il faut faire vite et vous signaler par mail ou sur notre page Facebook. Merci infiniment, Jean-Pierre Abibrine, vous revenez quand vous voulez avec
merci
ou sans échantillon.
C'est merveilleux de pouvoir discuter comme ça avec le monde entier.
Et tout ça, c'est grâce à Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Merci pour votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de l'information.